Revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Revue de presse de l'April, semaine 1 de l'année 2016. Salut Mali.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, on a fait un nouveau générique. Alors, il est moins bien que le précédent, mais il avait été fait par quelqu'un qui a beaucoup plus de talent que nous. Mais on s'est dit que c'était peut-être le moment de changer. Bon, après, il sert à le de trop en prendre un ancien.
On l'améliorera.
Oui, enfin, on fera quelque chose, quoi. Donc, Manu, parle-nous du sommaire.
Joli petit sommaire, assez tranquille hein, pour ce début d'année. Donc, on va reparler de l'école, le gouvernement néerlandais, l'open source qui a gagné, coup de pouce de l'État pour l'open source, les libertés numériques, et pour finir, un article sur les citoyens entrepreneurs dans la ville.
Le point, Brighelli, l'école vendue pas cher à Microsoft. Donc c'est une tribune de Jean-Paul Brighelli. Est-ce que vous savez qui c'est ?
Pas du tout.
Aucune idée.
Alors moi je me suis documenté, sinon j'aurais pas posé la question. c'est un prof et qui est également essayiste. Donc voilà, qui écrit des choses, mais qui est professionnellement un prof.
Donc c'est un article qui reprend des sujets qu'on connaît déjà et bien, et qui reprend une photo qu'on adore.
Qu'on a bien détournée en plus.
Qui a été détournée de partout, avec la ministre de l'Éducation nationale. Et alors je crois qu'en fait c'était un représentant de Cisco.
Oui, je crois qu'il s'était trompé dans les images en fait.
Qui avait été présenté comme un représentant de Microsoft, sachant qu'ils ont signé tous ces grosses boîtes des accords avec les ministères français.
Et le même jour.
Donc c'était assez moche. Et là, on repasse le couteau dans la plaie de, l'Éducation nationale s'est vendue pour pas cher. Puisque c'est un peu la conclusion qu'on voit dès le début dans le titre, à Microsoft et à toutes ces grosses boîtes. Donc, ils déroulent un tapis rouge, sachant qu'en plus de ça, ça c'était assez fun. Le Canard Enchaîné a repris le sujet. Alors, on n'a pas d'article dans la revue de presse parce qu'on fait dans l'électronique, mais ça n'empêche, ça a beaucoup jasé. Et à l'April, on a fait paraître un petit texte à propos de ce texte, parce qu'on aime bien le Canard Enchaîné. Et là, il y a des petites révélations qui valent ce qu'elles valent.
Elles sont en partie reprises dans cet article-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir qui sont les gens chez Microsoft, ce qui a été leur parcours. On s'aperçoit qu'ils ont travaillé pour des sénateurs avant, en tout cas qu'ils étaient vraiment du côté législatif ou du côté de l'administration centrale. Hop, ils sont passés maintenant du côté...
Des petits parachutes, on est en fin de carrière,
on passe, c'est même pas politique, parce que les gens, c'est pas des élus, mais c'est soit des hauts fonctionnaires, soit des assistants, etc. Et c'est ce qu'on appelle du pantouflage. C'est-à-dire, on passe un coup d'un côté, un coup de l'autre, et après ça, évidemment, il y a ces accords-là. J'aime bien, il utilise l'expression de VRP en disant que les profs vont devenir des VRP de Microsoft, et c'est exactement ça.
Voilà. Et puis surtout, ce qui fait un peu débat là-dessus, c'est que la facture ne serait que de 13 millions d'euros, ce qui est une broutille quand on rachète l'intégralité de l'Éducation nationale. Et surtout que là, il n'y a ni d'appel d'offres, ni rien.
La facture, tu veux dire le gain.
Enfin, le gain pour l'Éducation nationale, puisque Microsoft paye 13 millions pour asseoir son pouvoir sur l'Éducation nationale, et en fait, c'est que dalle par rapport à ce que ça vaudrait en réalité si on faisait un appel d'offres ou qu'on mettait en concurrence.
Sans compter que c'est des cohortes entières de gamins qui vont être dressés à utiliser du Microsoft. Et ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, c'est juste un business sur une vie entière, tout ça. Donc, c'est
la première dose gratuite, comme on dit.
Et il faut mentionner également qu'il cite Rémi Boulle, qui est notre spécialiste de l'éducation, qui est lui-même prof, administrateur de l'April, et il est cité dans cette tribune. Le Monde.fr, le gouvernement néerlandais défend le chiffrement des données, un article de Morgan Tual.
Donc ça, c'est un gros contre-pied avec ce qui se passe en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout, où toutes nos politiques essayent de dire, les terroristes, ils utilisent le chiffrement, c'est pas bien, faut qu'on arrive à casser ça, qu'on puisse faire nos enquêtes tranquillement, sans être embêté par du chiffrage ou du chiffrement. Et là, les Pays-Bas disent, non, on veut sécuriser nos citoyens, on veut pas leur faire courir de risques, donc on va appuyer le chiffrement et tous les logiciels de cryptage, y compris en mettant de l'argent sur la table. Hein, ils offrent un demi-million à OpenSSL, ce qui est juste énorme.
Hein, un gros projet du libre qui avait fait jaser parce que il n'y avait pas assez de gens qui travaillaient dessus. Il y avait eu des bugs assez marquants. C'était comment le bug
C'est Heartbleed, il y en avait eu d'autres, GoToFail, il y en a eu plein des comme
et
ça.
Donc là, ils mettent de l'argent sur la table et ils prennent effectivement l'opposé de ce que disent la plupart de nos politiques. Attention les gars, les terroristes, c'est des gros vilains méchants, sachant que nous, on connaît le sujet un petit peu, ils n'ont pas utilisé de chiffrement pour les derniers attentats, donc on ne peut pas savoir pour l'avenir bien sûr, mais en attendant c'est pas de casser le chiffrement des citoyens qui aurait empêché toutes ces morts et tous ces drames. Donc aller accuser quelque chose qui n'a pas été en jeu, c'est vraiment qu'ils ont en fait des arrière-pensées qui traînent depuis longtemps. Ils ne veulent pas que les citoyens aient une vie privée garantie par la technologie, ils préfèrent affaiblir notre sécurité.
En notre sécurité et notre capacité à nous organiser, à discuter, etc. On l'a vu avec l'état d'urgence et la façon dont ça a servi à casser la contestation sur la COP 21 et à signer à résidence des écolos. C'est pour moi la démonstration la plus éclatante de leur projet et qui est absolument scandaleuse. Mais derrière, voilà, c'est la même logique qui est là, hein, la loi de surveillance avant et tous ces trucs-là. On est vraiment là-dedans. Donc, manifestement, il y a des pays où la population est considérée comme un danger pour le pouvoir en place et il faut absolument la faire taire et la mettre sous contrôle, et d'autres où au contraire c'est considéré comme des gens responsables, une ressource et effectivement qu'un pouvoir qui semble travailler pour eux. ZDNet France, Linux et l'open source ont gagné, acceptez-le. Un article de Stephen J. Vaughan Nichols. Donc c'est une traduction, je suppose, qu'avec un nom pareil.
Faut voir. Mais en tout cas, c'est aussi une forme de contre-pied, parce que ça fait des années qu'on attend ce genre de choses. Parce que oui, faut pas se le cacher, il y a une confrontation entre le monde du logiciel libre et le monde du propriétaire. Et là, eh bien, il y a quelqu'un qui dit non, vous inquiétez pas les gars, vous avez gagné. Tous ces informaticiens, toutes ces associations qui travaillent à faire du libre, vous avez gagné. Faut juste s'en rendre compte quelque part.
Bon, on l'avait déjà dit tout au long de l'année dans les revues de presse. On a plein d'articles en fait qui donnaient plein de petits détails un peu à droite à gauche, mais en gros aujourd'hui le libre il y en a absolument partout, on l'utilise sans faire attention, même les systèmes les plus privateurs font aussi du libre. Microsoft c'est ouvert, Apple utilise énormément de libre à l'intérieur,
son dernier langage ils le mettent en avant. Apple c'est pas du genre à donner des choses, et bien non, ils ont donné leur dernier langage, ils le mettent en libre.
Puis donc il y a d'autres exemples, le cloud Azure de Microsoft tourne avec du Linux, le plus gros cloud Amazon tourne aussi sous Linux, il y en a vraiment partout. Après, petit bémol, c'est ils font ce qu'on appelle de l'open source, ils utilisent énormément de technologies ouvertes et libres pour faire du système privateur, ou en tout cas qui ne garantit pas les cas de liberté à leurs utilisateurs. Et le cloud est un très bon exemple, vous allez chez Amazon, vous êtes complètement enfermé chez eux, mais derrière c'est uniquement des outils libres et autres, et donc on a gagné dans ce sens-là, on a réussi à s'injecter un peu partout.
Le propos est purement open sourciste. Alors il rentre un peu dans le détail en disant que Apple n'ira jamais aussi loin que Microsoft, et que Microsoft a changé, c'est plus les mêmes patrons, et que c'est plus la même boîte, etc. N'empêche que toutes ces entreprises, il n'y a pas que Microsoft, les autres font la même chose, Amazon, etc. C'est effectivement de l'enfermement de l'utilisateur par d'autres moyens, qui sont les services hébergés, ce genre de choses. Et donc ce côté de arrêter de vous plaindre, c'est bon, vous avez gagné. Les libristes n'ont pas gagné, notre combat reste toujours d'actualité, il est même de plus en plus, parce que l'informatique a de plus en plus de poids sur nos vies, et donc le fait d'être enfermé par ces systèmes a de plus en plus de conséquences. Technique de l'ingénieur, coup de pouce de l'État en faveur de l'open source, un article de la rédaction.
Donc ça, c'est l'État qui vient de publier donc le fameux SIL, le socle interministériel des logiciels libres.
Alors ils le reprennent, parce que je crois que ça a été publié en fin d'année 2015.
C'est une petite mise à jour, quoi.
Voilà, et c'est quelque chose qui existait déjà, donc qu'on aime bien, parce que ça répète, ça remet en avant les logiciels libres utilisés, utilisables ou à utiliser dans les administrations françaises. Et on sait à quel point la France est centralisée et que ça peut être important pour ensuite les entreprises qui vont lorgner de ce côté-là et pour d'autres pays qui peuvent prendre exemple.
Donc le but de ce socle interministériel, en fait, c'est de regarder le panel d'outils qui va exister, et puis quand il y en a plusieurs en compétition, de se décider sur un et un seul, et puis comme ça d'homogénéiser les parcs informatiques. Ou des recommandations, il n'y a jamais rien d'obligatoire là-dedans. Mais voilà, si quelqu'un a envie de se lancer dans l'éducation nationale ou dans l'administration sur tel ou tel outil, le SIL va pouvoir lui dire, si tu veux une base de données, tu utilises plutôt ça, si tu veux faire du traitement d'image, c'est plutôt ça, etc.
Donc, c'est intéressant, mais gros bémol que l'article remonte. À côté de ça, le gouvernement, les administrations font des grosses conneries. Celle qui est en train de se faire en ce moment, c'est en quelque sorte l'interdiction des logiciels libres pour faire de la gestion de caisse, pour de la comptabilité d'entreprise, parce que au nom du combat contre la fraude de la TVA, ils ne voudraient pas... Alors, c'est la direction que ça prend, ça n'a pas encore été écrit, mais l'État ne voudrait pas que l'on puisse utiliser du logiciel libre qui est par essence modifiable, parce que si on peut le modifier, d'après eux, d'après les arguments en ce moment qui se déroulent, ça veut dire qu'on pourrait plus facilement, ou qu'on s'autorise à frauder la TVA.
Alors autre élément, ce SIL, c'est bien un truc de logiciel libre, donc ce n'est pas des recommandations de logiciels en général qu'on confronterait par rapport à des besoins, c'est un truc qui est spécifique logiciel libre, donc ça nous dit pas à quel point ce machin est utilisé. On peut très bien dresser une liste de trucs de logiciels libres et dire regardez, on l'a fait, et qu'elle soit pas utilisé. Et on a maintenant trois ministères qui ont signé des accords open bar avec Microsoft, donc c'est loin d'être gagné quand même. Nouvelle de France, liberté numérique, sortir de l'idéologie totalitaire dominante et avoir une vraie volonté politique. Une tribune de Barbara Mazière. Donc ça, c'est un petit site obscur quand même.
Ouais, c'est un peu compliqué à lire.
Et alors, le site, on achetait un œil, il répertorie en quelque sorte des opinions, alors conservateur, libéral, donc c'est un peu original. Bon, l'article est quand même intéressant et il reparle du sujet d'actualité, l'état d'urgence en grande partie et les libertés, avec ce côté, l'État est en train de devenir un totalitarisme.
Ou totalitaire, ouais. Enfin bon, après, c'est complètement exagéré. C'est vraiment un texte assez amateur. amateur, hein, la plume bon, est clairement assez médiocre par rapport à un niveau de journaliste. Ce qui est dit dans l'article est plutôt pas mal dans l'ensemble, sauf peut-être le passage sur le fait d'avoir un système d'exploitation national qui est un peu une absurdité.
Surtout, on a vu avec la Corée du Nord, hein, ça marche pas très bien.
Si, ça a l'air de marcher bien.
Ça marche super bien en Corée du Nord, ils sont contents. Mais,
le dit bien. On n'en sait rien.
Bah, et en tout cas, ils nous le vendent quelque part comme étant un exemple.
Ceux qui se sont plaints sont morts de toute façon.
Peut-être bien. Et donc là, nous, en tout cas, ce qu'il faudrait, d'après elle, c'est bah, qu'on remonte des industries nationales, françaises, et que ces industries refassent du logiciel et du hardware, donc reconstituer une sorte de bulle.
Mmh. Bah, en fait, le point de départ, moi, me semble plutôt bien, hein, dans le sens où elle constate que, effectivement, le matériel, c'est un moyen de faire l'espionnage, et qu'aujourd'hui, on est en gros pieds et poings liés entre les Chinois, pris entre les Chinois et les Américains, et que on ne peut pas garantir notre souveraineté dans le domaine dans ces conditions-là, et c'est vrai. Alors ce serait un projet plutôt européen, je veux dire, la France ne fera jamais ça toute seule dans son coin, mais ce serait très ambitieux effectivement. Donc moi je trouve qu'il y a plein de choses assez intéressantes là-dedans. Le site en lui-même a l'air assez pur, hein, parce qu'ils ont l'air de faire une grosse fixette sur les réfugiés, sur les étrangers, tout ça. Je pense qu'ils sont quand même très conservateurs, mais la rédaction est un petit peu maladroite, mais finalement les idées sont pas mal, et ça démontre, hein, à quel point le logiciel libre arrive à fédérer des gens très différents, et ça c'est une des forces, hein, du libre. L'atelier, les villes ne se rendent pas compte du potentiel du citoyen entrepreneur. Un article, enfin qui est plutôt une interview menée par Aurore Géraud.
L'article, en fait, c'est un économiste, chercheur américain, Boyd Cohen, qui est interrogé sur la vision, la vision de l'entrepreneuriat en fait dans les villes, et comment est-ce qu'aujourd'hui ça se positionne, et quelle est la vision entre les visions politiques et la vision sur le terrain, avec les politiques qui vont regarder les gros chiffres, avec les chiffres d'affaires, ou autre, et puis sur le terrain. Bah, qu'on arrive à faire des choses assez bien avec du crowdfunding, avec des choses, avec de l'innovation personnelle, quoi.
Il y a un côté économie du partage dans tout ça, non ?
Ouais, en fait, quand j'ai commencé à lire l'article, il y a mon détecteur à buzzword qui s'est mis à sonner très fortement en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Il nous en met dans tous les sens. Et effectivement, enfin, il y a quand même des choses intéressantes dedans, mais on sent qu'il en fait vraiment beaucoup, et qu'il y a un peu une sorte de pot-pourri de ces trucs modernes de type économie du partage, les makers, ces choses, genre de choses. Ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'il démontre deux figures, et alors le terme entrepreneur est utilisé absolument, et finalement pour avoir un angle d'approche complètement différent, en disant que bon, pour lui, il y a deux grandes figures. Il y a l'entrepreneur citoyen qui est en fait là pour essayer de résoudre des problèmes concrets dans la ville, et être un peu dans l'échange, dans l'entraide, dans l'idée de se substituer à un service public, c'est-à-dire on fait nous maintenant tout de suite par nos propres moyens, et après ça un modèle un peu plus professionnel, mais qui est également dans l'économie du partage, ce genre de choses. Mais on sait qu'il y a vraiment des logiques qui peuvent être très très différentes là-dedans. Bon, après c'est un peu du gros trait. C'est probablement une traduction, on ne sait pas trop, en tout cas c'est aussi un article un peu maladroit, mais c'est assez intéressant de voir que cette notion, elle est en train d'émerger.
Il parle notamment, et ça fait partie des raisons pour lesquelles l'article est là, hein, des repair cafés. Donc il y en aurait 950, et c'est des endroits où les gens viennent avec leur matériel, du matériel cassé, du matériel qui a besoin d'être amélioré pour une raison X ou Y, et entre citoyens et entrepreneurs, comme il le présente, eh bien dans les repair cafés, on peut se prendre en main, former, utiliser des outils qui sont posés pour le groupe, et les gens qui ont lancé ce concept-là, ils l'ont lancé en libre, donc en open source. Ils n'ont pas bloqué, ils n'ont pas voulu faire une entreprise pure avec une franchise, par exemple, oui. Mais en fait, ça marche très bien.
Ils auraient pu éventuellement le faire, puisqu'ils avaient développé ce truc-là, que ça marchait. Mais ils se sont dit, se lancer dans un truc international, c'est un boulot énorme, c'est casse-gueule, etc. Et on préfère autant laisser les gens faire chacun chez soi et leur faire profiter de nos bonnes idées. Donc effectivement, c'est une belle illustration de ce que peut être le libre sur quelque chose de complètement différent du logiciel. Bon, bah, on a fait le tour.
On a fait le tour, je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, bonne semaine à tous.